Vous écoutez Histoire de mobilité, un podcast qui raconte les expériences internationales de chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales.
Pour cet épisode de nos Histoires de mobilité, nous recevons Amar Kandil, chercheur associé à l'Université de la Manouba en Tunisie et lauréat du programme Atlas. Amar Kandil a pour objet d'étude l'histoire et la mémoire palestinienne et leur représentation, non seulement sous forme écrite, mais par d'autres médiums. Lors de son séjour à Paris, c'est la bande dessinée qu'il a choisie pour porte d'entrée. Avec ses 1000 possibilités de structurer le récit, la bande dessinée se prête volontiers, entre autres, à recueillir la mémoire orale, un matériau que l'historien regarde souvent avec suspicion. Le chercheur considère Amar Kandil à son rôle à jouer pour revisiter les mémoires et éventuellement les réconcilier.
Je m'appelle Amar Kandil, je viens de Jordanie. Je suis chercheur associé au laboratoire d'analyse textuelle, traduction, communication de l'Université de la Manouba en Tunisie. J'ai soutenu ma thèse en 2016 à l'Université de Montpellier III en France. Ma thèse a porté sur la fascination d'Edward Said pour l'orientalisme français et surtout les appropriations intellectuelles et esthétiques qu'il fait en relation avec l'orientaliste Louis Massignon. Depuis 2016, j'ai continué ma recherche postdoctorale sur les représentations et les auto-représentations des Palestiniens dans les arts et les littératures en contexte français et américain. Je m'intéresse surtout à la reconstruction des identités diasporiques palestiniennes dans ces contextes occidentaux et surtout à la présence de l'histoire et de la mémoire palestinienne dans ces représentations. Cette orientation de recherche s'accompagne depuis récemment d'une autre que je mène sur ce qu'on appelle dans le monde anglophone les « safe spaces ». Ce sont les zones sûres, les zones neutres, qui intègrent les pratiques artistiques pour assurer des chances d'expression aux catégories marginalisées dans la société, surtout les femmes et la communauté LGBT. J'ai une histoire avec la FMSH parce que j'ai obtenu en 2020 une première mobilité postdoctorale cofinancée par la FMSH et le Conseil arabe des sciences sociales à Beyrouth. Une deuxième mobilité soutenue par la FMSH et Carnegie New York dans le cadre du panel international sur la sortie de la violence et que j'ai menée au centre de Columbia University à Amman, pour travailler justement sur ces espaces artistiques neutres. Et une troisième mobilité que je mène actuellement en France, dans le centre Mésopolis à Aix-Marseille, qui est financée par la FMSH et l'Union des universités de la Méditerranée, où je travaille sur les questions mémorielles palestiniennes dans la bande dessinée. J'ai choisi la bande dessinée pour travailler sur les questions mémorielles touchant aux Palestiniens et plus largement au conflit israélo-palestinien parce que j'ai entamé une réflexion sur l'évolution de l'historiographie française en ce qui concerne la réécriture des récits historiques concernant l'expulsion des Palestiniens en 1948, donc ce qu'on appelle la Nakba. Et il me semble que la bande dessinée dépasse un problème majeur posé par l'historiographie qui vise toujours à l'objectivité scientifique et qui, du coup, réduit l'importance accordée à la mémoire orale et plus largement à l'histoire orale. La bande dessinée ne fait pas fi de ces problèmes que pose l'histoire orale pour l'historien, parce que la bande dessinée affirme que la mémoire orale ne manque pas de crédibilité et de validité face à l'archive écrite surtout. Donc la bande dessinée traite de ces questions mémorielles grâce à une flexibilité des structures, grâce à un engagement important du lecteur dans la reconstruction du sens historique, grâce à la flexibilité et grâce surtout à l'ellipse en fait qu'elle crée en juxtaposant les cases et les planches et en laissant donc une marge importante au lecteur d'interprétation. La bande dessinée, comparée à d'autres médiums comme la photographie ou le cinéma encore, offre des possibilités infinies de structurer les événements, dans le sens où la place qu'occupe la case et la planche dans la série narrative est sujet à d'innombrables reconstructions chez le lecteur. C'est ce que disent parfois les théoriciens de la bande dessinée. En fait, le lecteur invente une image mentale pour remplacer ces ellipses qui succèdent entre les cases. Et donc, ces images mentales sont parfois les plus importantes dans la conscience qu'a le lecteur du récit raconté. Mon approche des arts visuels a pris en compte en fait plusieurs supports comme la photographie, comme le film, mais aussi les arts scéniques. J'ai travaillé sur la comédie stand-up. Mon approche générale de tous ces supports, c'est vraiment formel. Il s'agit de toujours questionner la poétique de ces œuvres, dans le sens où quelle est la vision du monde portée par l'auteur de ses œuvres en situation de contact avec des milieux de réception occidentaux? Et les enjeux que porte cette interaction d'une question transnationale dans un milieu d'accueil, les enjeux qui sont intégrés et pris en compte par le créateur pour parler mieux, pour transmettre le message de manière créative, qui remet en question justement toutes les idées reçues et les convictions établies. Pour la bande dessinée, mon approche consiste à relever les parallèles entre l'histoire orale en tant que démarche de la discipline historique et le travail créatif qui est présent dans la poétique de cette œuvre. La première mobilité d'Atlas que j'ai effectuée en 2020 sur l'historiographie de la Nakba en France m'a permis surtout d'ouvrir un terrain interdisciplinaire. Je suis de formation littéraire à la base, J'ai travaillé sur un corpus d'historiens et de journalistes. Donc c'est cette valeur ajoutée de la mobilité, de pouvoir articuler ma formation initiale en littérature, aux sciences sociales. Une autre valeur ajoutée de cette mobilité a été la valorisation de mes travaux scientifiques, parce que j'ai pu profiter de l'espace éditorial offert par le Conseil arabe dans la série des Working Papers. Ce sont vraiment des documents de travail et qui offrent des idées et des pistes de recherche stimulantes et qui sont évaluées par des pairs. Avec les deux mobilités Atlas, donc portant vraiment sur les questions historiques et mémorielles, je me trouve beaucoup plus affirmé pour continuer mes recherches dans l'avenir sur ces questions spécifiques, mais surtout dans un corpus qui est aujourd'hui en train d'être nourri et que j'envisage d'élargir vers d'autres supports artistiques et d'autres espaces artistiques comme les musées surtout. Je voudrais vraiment aborder la place et la présence de cette histoire et de cette mémoire palestinienne dans les politiques muséales et dans les musées, dans les contextes occidentaux et surtout en Europe et en France en particulier, parce que ce sont là les espaces qui permettent des rencontres alternatives entre des publics européens avec la région du Moyen-Orient, alternative aux images médiatiques explosives, malheureusement, qu'on voit tout le temps, et surtout alternative à ce que pourrait proposer la narration dominante dans les canons universitaires et intellectuels. À mon avis, il est important de réconcilier les mémoires pour pouvoir réconcilier les gens. Et c'est ça, il me semble, la tâche de chercheur aujourd'hui, quand il travaille sur des conflits qui durent dans le temps. Pourquoi ? Parce que le chercheur travaille sur des documents ou du matériel plus largement, dont les premiers concernés sont les peuples sur lesquels il travaille. La mémoire, de manière générale, donc en tant que souvenir vécu par les acteurs historiques qui ont vécu l'événement historique ou par les descendants de ces acteurs historiques, ce qu'on appelle aujourd'hui la post-mémoire, c'est à peu près aussi mon cas personnel parce que je suis fils de réfugiés palestiniens en Jordanie. Et le traumatisme vécu de l'expulsion, de la vie, de la dislocation, m'a été transmis, bien que je ne l'ai pas vécu personnellement. Donc, la mémoire forme, en fait, les identités sociales. Et aujourd'hui, elle forme surtout, et c'est là où son étude peut constituer un acte de sortie de la violence, c'est qu'elle forme l'imaginaire d'une identité collective ou d'une communauté quelconque vis-à-vis de l'autre. Donc c'est cette dimension de l'altérité qui est sous-jacente en fait à la mémoire, qui ne se construisent pas unilatéralement, mais en fonction de notre imagination de cet autre, des modalités qui sont inhérentes à sa diabolisation ou à son acceptation et qui est digne d'une étude, pas forcément pour changer ces mémoires-là ou pour les modifier, mais tout simplement pour les revisiter, pour comprendre l'impact de ces événements traumatiques sur la conscience collective dans le présent et dans le futur, bien sûr.
Depuis maintenant 60 ans, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme soutient la recherche, valorise et diffuse les connaissances en sciences humaines et sociales.
Avec les voix de Vlad Berinday et Emmanuel Korn, ce podcast a été enregistré à l'automne 2022 et publié à l'été 2023. Yeah.